Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Chers frères et sœurs, merci pour cette belle introduction que le Père de votre communauté l'a fait. C'est vrai que c'est un long cheminement que je fais dans le monde chrétien et pas seulement, parce que depuis 1993 que je parcours ce monde et ce n'est pas, je pense, sans importance le fait que, en quelque sorte, ma vocation a commencé à Jérusalem, parce que c'est le monde qui, si vous voulez, amène ensemble au moins les trois grandes traditions monothéistes, le christianisme, le judaïsme et l'islam, qui parlent du même et unique Dieu. Et ce que, si vous voulez, la semaine de la prière pour l'unité chrétienne, voilà que ça restreint, si vous voulez, un peu cet espace à laquelle nous pensons de l'unité, mais il dépasse simplement l'esprit ou, si vous voulez, notre regard et notre concentration sur le monde chrétien. On est au début de l'année 2009 et on est au début de l'année civile. Et chaque fois, nous prenons au début des années des résolutions que nous essayons de mettre en pratique, d'orienter nos choix et notre vie pour une année tout entière. Et c'est très noble et beau, cela parce que les premières choses, les premières pensées de nous en tant qu'hommes et femmes de foi, c'est de penser à Dieu et commencer l'année avec Dieu, vivre avec lui, le prendre comme celui qui est en marche avec nous. Et l'évangile de cette année, parce que c'est l'évangile, je ne suis pas sûr que c'était la lecture de l'ordre, de votre ordre liturgique, mais l'évangile de cette année qui est consacré à la justice, rien que la justice, un texte de Deutéronome et la bonne nouvelle annoncée aux pauvres, c'est l'évangile que nous commençons, par exemple, dans la tradition byzantine, l'année liturgique ecclésiastique. Ça veut dire que c'est l'évangile où nous voyons le Christ qui commence sa mission et il lit le texte inspiré par Dieu à Isaïe quelques centaines d'années auparavant. C'était des textes messianiques, et le texte que j'ai lu, c'était « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et tout ce qui suit. » C'était des textes dont la tradition judaïque vivait de cette espérance. C'est lui qui prononcera, c'est lui qui correspondra à cette parole de Dieu inspiré. C'est lui que nous allons reconnaître comme le sauveur du monde. Et le temps est arrivé à ce moment quand Jésus est entré dans la synagogue de Nazareth. Il lui est donné le texte de l'Écriture, de l'Ancien Testament, il lit ce texte. Et après avoir lu ce texte, ce qui est très important, c'est que ce n'est pas, certainement, probablement, il y a eu le commentaire après, mais ce qui est important, ce n'est pas ça. C'est le fait que le Christ, il dit, aujourd'hui, cette parole, c'est-à-dire la parole prophétique dont toute la tradition a vécu jusqu'à aujourd'hui, s'est accomplie. Le temps messianique, le kairos, comme on l'appelle dans la tradition grecque, le temps dans lequel Dieu agit, maintenant, s'est accompli. Voilà que c'est ce que je voulais souligner ce soir, et que, en tant qu'hommes et femmes d'Église, de foi, nous avons cette certitude qu'on n'est pas seul. On est pauvre parce que on s'est éloigné de Dieu par la chute du premier homme et de la première femme. Et nous, on voit toute la suite des choses, cet éloignement se manifestant dans les événements de ce monde aujourd'hui. Et on ne doit pas faire beaucoup de philosophie pour comprendre le péché et le manque de foi et les conséquences. Il suffit d'ouvrir n'importe quel moyen de communication d'aujourd'hui, si vous voulez, la télévision, la radio, le Twitter, le Facebook, et de suite. Et vous allez voir, on a pas mal de choses bonnes, mais on a autant de mauvaises choses. Et cela que ce que nous montre, si vous voulez, la pauvreté dans laquelle nous avons descendu à cause de l'amoindrissement de notre foi. Mais l'exemple le plus important de celui qui nous donne l'exemple du pauvre, ce n'est même pas nous-mêmes. Le vrai pauvre, le plus pauvre, c'était le Christ lui-même. Parce que, imaginez-vous, il est venu de cieux, il a renoncé à sa gloire, il a caché, si vous voulez, sa gloire, qu'il a révélée dans la transfiguration. C'est là qu'on voit la nature vraie du Christ. Il a caché sa gloire, pourquoi? Pour offrir à l'homme cette liberté, pour le rendre juste, pour lui offrir cette liberté de choisir de nouveau la voie de Dieu. Vous savez, quand l'Ancien Testament, on voit pas mal de miracles s'accomplissant par Abraham, au temps d'Abraham, de Moïse, d'Élie, par des signes, si vous voulez, avec de la force, qui épouvantaient ceux qui étaient autour du législateur, par exemple du Moïse ou autre. Et étaient les signes de la force qui, en quelque sorte, amenaient la peur, la crainte, si vous voulez. La peur, ce n'est pas le terme approprié. C'est la crainte qui a amené ces signes. Et les gens croyaient, suivaient, si vous voulez, la parole du prophète ou du législateur, de Moïse, d'Élie et de suite. Cette fois-ci, dans le Nouveau Testament, le Christ nous invite. Il cache sa gloire, il ne fait plus des signes, si vous voulez, qui puissent effrayer ou puissent amener la crainte, mais il invite toujours à avoir la foi. Et simplement, au moment nécessaire, je le rappelais tout à l'heure, au moment de la transfiguration, les disciples commencent à voir sa véritable nature. Le fait qu'il s'est fait pauvre pour nous, il est devenu l'exemple par excellence du pauvre pour nous. Pourquoi? Pour nous donner le courage. Nous donner le courage, mais en même temps, être à côté de nous et nous prendre par la main et nous relever dans sa richesse. Il nous a donné, si vous voulez, l'Église, la communauté, l'Esprit Saint. Vous allez célébrer tout à l'heure la messe, la divine liturgie, ce que nous appelons la tradition byzantine, qui est le mystère du royaume. Dans la tradition byzantine, il est très clair, indiqué quand le prêtre ou l'évêque donne la bénédiction pour la divine liturgie, pour la messe, ce que vous appelez dans la tradition byzantine, on prononce la grande bénédiction. Béni soit le Père, le royaume du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça signifie? Que d'une manière cachée, mais réelle, le royaume de Dieu à travers le sacrement de l'Évangile, de la parole de Dieu, et après par l'Eucharistie, le royaume de Dieu est présent parmi nous. Et à ce moment, nous devenons riches, parce que nous sommes absorbés, si vous voulez, où nous sommes, nous devenons, nous vivons dans la présence du Seigneur, non simplement à travers la grâce ou à travers la parole, mais nous vivons dans la présence du Seigneur, présent de manière matérielle par le corps et le sang du Christ. Nous aurons sur l'autel. Vous voyez donc, on est amené à devenir riche. On devient riche par cette présence. On est appelé à restaurer dans notre humanité l'image et la ressemblance d'après lequel on est créé par Dieu. Et voilà qui est notre, si vous voulez, notre pauvreté et notre richesse en même temps. L'état dans lequel nous voyons, avec des conflits, de la haine, des guerres, des désirs malsains d'avoir le pouvoir sur les autres. Et je dis, il ne faut pas faire beaucoup de philosophie. Ouvrez un des moyens d'aujourd'hui de communication. Vous allez voir beaucoup de malheurs. Beaucoup de malheurs. Et pour nous, c'est, en tant que chrétiens, bien sûr, nous acceptons la limite, nos forces limitées à en faire plus que ça. Mais la prière doit être forte, le courage pareil, parce que le Seigneur nous accompagne. Le Seigneur est avec nous et en nous. Et c'est ce que nous demande, si vous voulez, cette année, ce que nous sommes proposés en tant que chrétiens cette année, de rendre des gestes justes, d'essayer de transfigurer notre vie et essayer d'implanter dans nos sociétés la justice. Vous savez, notre parfaite, si vous voulez, image ou modèle, c'est la Sainte Trinité, parce que vous connaissez, vous avez le même mystère, le Père et le Saint-Esprit. On a l'unité de la nature, tous les trois, on possède la même nature. Mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas, n'agissent pas dans l'économie de notre salut de la même manière. Vous voyez? Donc il y a unité, il y a différence. On a, par exemple, si on parle de nous en tant que personnes humaines, on a la même nature commune. Mais en même temps, on porte des noms différents. On a des vocations, des dons différents. On a chacun ou chacune sa place dans nos communautés. Pourquoi? Parce que c'est ça la vie de notre monde imaginé par nous. Il donne la place à chacun, à chacune, afin que tous nous soyons un corps, un ensemble harmonieux, en s'étonnant des dons de la grâce des uns et des autres. Voilà que c'est l'appel de cette année, d'essayer de voir la pauvreté, la souffrance, les manquements de ce monde, de voir aussi nos manquements propres dans notre propre personne, notre vie, essayer de combler cela, essayer de lutter, avoir cette assaise et, si vous voulez, laisser la grâce de Dieu venir dans notre vie. Parce que la seule chose qui peut restaurer totalement notre vie, comme vous le voyez dans les miracles accomplis par Jésus dans les évangiles, c'est la grâce de Dieu. Nous pouvons réparer par-ci, par-là. Et la science a fait beaucoup de progrès. Mais la restauration totale, c'est le corps et l'âme. Et quand le Seigneur, il fait son travail, le fait totalement. Personne ne peut faire plus ou plus parfaitement que lui. Mais on a besoin de la foi. Si vous voulez, quand quelqu'un tombe de sa barque, et voit se noyer, et presque à se noyer, s'il ne tend pas la main à celui qui passe à côté pour pouvoir l'attraper, il se noiera. C'est la même chose avec nous en tant que personnes humaines. On a besoin de cette foi, parce que la foi, c'est le bras que nous tendons au Seigneur afin qu'il puisse nous attraper et nous sortir et nous amener dans son royaume.